de Paris. Je viens d'écouter votre émission sur les bidonvilles et je suis consternée par ce qui a été dit. Je suis brésilienne et j'ai grandi dans ces soi-disant bidonvilles du nord du Brésil et de Rio et je ne reconnais pas l'endroit où j'ai grandi dans votre description misérabiliste et néocolonialiste. L'exemple d'une voisine en colère pour décrire toute une population et entre les lignes supposer que les pauvres Brésiliens sont des sauvageons, je trouve que c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc j'aimerais bien avoir une analyse décolonisée des quartiers populaires et non pas le regard misérabiliste et condescendant d'un vieil homme blanc. Au passage, au Brésil, on ne parle plus de bidonville ou de favela, mais de communauté, ce qui est un terme beaucoup plus juste. Donc à bon entendeur. Par ailleurs, j'aime beaucoup votre émission, mais je dois avouer que là, vous m'avez déçu. Longue vie à la Terre au carré. Au revoir.
Bonjour, c'est Victor Noël. Je suis de Romba. J'ai eu la chance de participer à l'émission de côté de Jacques Loeil et Frédéric Gillet. Bah, du coup, entre les busards et les moineaux, j'ai juste oublié de vous dire que ce samedi à Metz, on va marcher pour le vivant, pour les oiseaux qui disparaissent, pour la biodiversité, pour le climat, pour vos enfants, bien sûr. Bon, bah, du coup, on se retrouve peut-être samedi à 14h à Metz, place de la Comédie. Merci.
Coucou la Terre au carré. C'est Cora, je vous appelle de Saint-Thierry-la-Perche, un petit village dans le Haut-Périgord. Je vous appelle parce que je me dis souvent que il y a la science, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui s'engagent, qui passent leur jour, leur nuit à essayer de trouver, à convaincre les autres. Et au milieu de tout ça, je pense qu'il y a aussi la beauté et la poésie qui peuvent nous aider à célébrer tous les jours un petit peu le monde, les oiseaux, la petite fleur sauvage qui est là, juste à nos pieds, la petite mésange qui est sur l'abribus et qui, elle aussi, réclame toute notre attention. Et aujourd'hui, c'est la pluie que je voudrais remercier parce qu'elle vient d'arriver après 3 semaines d'une grande sécheresse et elle a arrosé partout ce qui avait besoin. J'ai rempli plusieurs réserves, j'ai mis tous mes habits de pluie et j'ai vidé plusieurs fois les réserves pour aller arroser les jeunes arbres. Et en même temps que je les arrosais, eh ben, je chantais. Alors merci la pluie et je voudrais offrir à la pluie ce chant que je vous offre aussi. Merci la Terre au carré.
Et merci Cora, il s'en passe des choses décidément sur ce répondeur. Continuez donc à chanter, à critiquer et à nous informer en appelant pendant tout le week-end par exemple le 01 56 40 45 45. Et dans notre club de la Terre au carré cet après-midi, voyage entre deux extrêmes, le monde souterrain et le monde du cosmos. Nous commencerons par une plongée dans les profondeurs marines de la préhistoire, dans les calanques de Marseille, et puis nous décollerons à l'exact opposé dans l'univers de la pesanteur et de l'espace. Et je salue nos deux invités cet après-midi, le géologue Bruno Arfib en duplex du sud de la France. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et l'astronaute Thomas Pesquet en duplex de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Bruno Arfib, vous êtes maître de conférences et hydrogéologue à l'université Aix-Marseille. Vous êtes chercheur au CEREG, c'est le centre de recherche en géosciences. On va parler avec vous de la grotte Cosquer, cette grotte sous-marine avec ses peintures rupestres exceptionnelles. Vous effectuez vous des recherches depuis plusieurs années et dont la réplique sera ouverte à partir de demain au public. Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez justement hier à Marseille. Vous allez donc nous raconter votre visite de la réplique de Cosquer avant l'ouverture demain. Et puis Thomas Pesquet, à 16h30 tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec une rencontre organisée avec le public. C'est à la Cité de l'Espace à Toulouse. Autant dire que vous êtes chez vous dans la Ville Rose. C'est là finalement que tout a commencé pour vous.
Oui, c'est là que tout a commencé. Quand j'étais étudiant, c'est là que j'ai commencé à déployer mes ailes, que j'ai appris à piloter, que j'ai appris mon premier métier d'ingénieur. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir. C'est un événement au CNES ce matin, hier avec 900 enfants pour l'ouverture sociale. Et cet après-midi, à la Cité de l'Espace, on essaye un petit peu de rencontrer les gens qui ont suivi la mission et de leur expliquer un peu comment tout ça s'est passé.
On va en discuter avec vous. On parlera bien sûr espace, mais aussi écologie dans quelques minutes. Et puis vous répondrez tous les deux aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur la page de l'émission, sur les réseaux sociaux. sociaux et sur l'application France Inter avec les notes vocales. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Colin Gruel avec à la technique Élise Christophe.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Un Lascaux sous les eaux. En 1991, une grotte est repérée entre Marseille et Cassis. À 37 mètres de profondeur, un plongeur a découvert son embouchure. Il s'agit d'Henri Cosquer, qui laissera son nom au lieu.
C'est là que j'ai découvert bon, des chevaux peints, des bisons, chevreuils, cerfs, des oiseaux.
Les hommes préhistoriques ont peint en épousant les formes de la grotte. Et en relief, c'est incroyable ce qu'on peut voir. Et ces bisons qui semblent sortir des parois, c'est quelque chose qui vaut le coup.
Voilà la voix de l'ingénieur Guillaume Thibault. Demain, donc samedi, si vous êtes dans les environs de Marseille, mais vous aurez largement le temps dans les semaines et les mois qui viennent, ne manquez pas l'ouverture au public donc de cette réplique de la grotte Cosquer. Ça se passe à la Villa Méditerranée, juste à côté du Mucem. Une toute nouvelle expérience donc pour découvrir cette grotte dont l'original se trouve dans les Calanques, entre Marseille et Cassis. Bruno Arfib, vous êtes donc en ligne avec nous. Vous êtes hydrogéologue. Vous étudiez cette grotte depuis, je crois, 2014. En quoi consiste votre travail donc dans la grotte exactement?
Notre travail, ça consiste à comprendre quelle est la structure en trois dimensions du massif calcaire dans laquelle se trouve la grotte, et ensuite de voir à l'intérieur de la grotte comment varient les pressions, et les pressions vont avoir un impact sur le niveau d'eau. Donc si on doit le résumer simplement, c'est observer le niveau d'eau et voir quel est le lien avec toutes les contraintes extérieures.
Et donc à chaque fois que vous allez faire vos travaux sur place, vous prenez vos palmes et votre bouteille à oxygène, c'est ça?
Oui, c'est la particularité de la grotte Cosquer, c'est qu'elle est accessible uniquement en plongée. Mais une fois qu'on a passé les conduits karstiques qui nous permettent d'accéder à l'intérieur de la grotte, là on laisse le matériel et on est complètement dans l'air. Donc c'est une grotte semi-noyée, ouais. Une partie sous l'eau et une partie hors d'eau.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Cosquer, est-ce que vous pourriez nous faire une petite visite guidée très rapide, Bruno Arfib, quand on arrive justement comme vous et qu'on découvre cet endroit? Qu'est-ce qu'on voit d'abord pour commencer?
La première vision qu'on a, c'est sous l'eau. On est au sein du massif calcaire, on est dans des conduits, et puis là, on émerge. Et à partir de là, on va se retrouver dans une grotte qui ressemble à toutes les grottes que l'on peut voir dans les environs. C'est-à-dire un environnement minéral avec énormément de concrétions, de plusieurs couleurs, hein, certaines qui ont des teintes plutôt marron, caramel, d'autres qui ont des teintes plutôt grisâtres, voire blanchâtres, parce que la roche est très très blanche, hein, on est dans des calcaires très blancs dans les calanques.
Oui.
Et puis, quand on se déplace un peu, à ce moment-là, on va voir les œuvres pariétales, c'est-à-dire que là, on va voir les traces de l'homme préhistorique, les traces du paléolithique supérieur, que ce soit des gravures ou des peintures.
Alors, expliquez-nous où se trouve la mer finalement et quel est le lien continuel entre bien précisément l'eau et cette grotte.
Le lien, il se fait à travers la roche, dans des vides qui se sont créés petit à petit. C'est pour ça qu'on parle de karst souvent, hein, c'est un terme technique pour dire qu'on a une roche calcaire et au sein de cette roche calcaire, et bien des petits vides vont être élargis, à la fin ça forme des grandes grottes, et l'eau va emprunter ces passages, comme l'homme d'ailleurs a emprunté ces passages quand l'homme préhistorique, quand la mer était plus basse,
oui.
Et nous aujourd'hui en plongée pour accéder à la grotte qui est aujourd'hui fermée par l'eau.
Oui. Mais cette grotte elle est noyée par l'eau ou justement il y a une alternance entre l'air et l'eau? Comment ça se passe?
Alors il y a une interface, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la grotte, on retrouve un plan d'eau qui est principalement de l'eau salée. Hein, quand on fait les mesures, on est là aussi pour ça, pour faire des mesures physiques. Et on se rend compte que c'est la plupart du temps de l'eau salée, donc l'eau salée de la mer qui est juste à côté, hein, quelques mètres derrière les parois.
Ouais.
Et cette interface, eh bien, elle varie au cours du temps, d'ailleurs tout comme le niveau de la mer varie en permanence.
Donc ça veut dire qu'il y a un seuil de protection pour l'instant, hein, c'est ça?
Oui, la grotte et le massif calcaire hein, qui l'entoure forment un filtre aux variations du niveau de la mer. Mmh. Quand la mer bouge, par exemple quand il y a des tempêtes ou au cours de la marée, bah, à l'intérieur de la grotte, il va y avoir également le mouvement du plan d'eau, mais ce mouvement va être amorti, voire même quelquefois va aller dans le sens inverse de ce qu'on pourrait attendre, dans le sens inverse du niveau de la mer.
Alors on sait que le niveau de la mer est en train de monter, donc il y a quand même une menace qui pèse pour cette grotte Cosquer. On va en parler avec vous dans quelques instants, Bruno Arfib. Sophie Bécherel, vous avez fait un aller-retour hier à Marseille, justement pour visiter en avant-première la réplique, parce que ça ouvre donc demain au public. Dites-nous ce qu'on voit exactement, puis on va écouter votre sujet.
Alors, on voit beaucoup de choses, hein, puisque l'idée c'était, comme pour Lascaux, comme pour Chauvet, de reproduire en fait l'intérieur de cette grotte, dans laquelle vous comme moi ne pourrons pas aller, car nous ne savons pas plonger, et par ailleurs pour la protéger. Sauf que là, les équipes ne sont pas parties d'une feuille blanche. Il a été décidé en 2016 d'utiliser la Villa Méditerranée, une villa que les Marseillais appellent l'agrafeuse.
Ah oui ?
Oui, en raison, si vous voulez, de son architecture assez spectaculaire. C'est un bâtiment avec une avancée en porte-à-faux de 40 mètres, situé au-dessus d'un bassin d'eau de mer artificielle. Et donc, dans cette villa méditerranée, il fallait que les concepteurs et le maître d'œuvre adaptent cette réplique de la grotte à un bâtiment existant. C'est ce que nous rappelle Laurent Delbos, responsable du chantier pour la société Kléber-Roussillon.
Il y a la conception, effectivement, qui était complexe, puisque le bâtiment existait déjà et qu'on a dû insérer la boîte dans la boîte. Ça, c'était une vraie difficulté avec des données qui sont arrivées au fur et à mesure. Et puis, la grotte n'est pas accessible, elle n'est pas visible, elle est peu étudiée. Et la deuxième chose, surtout, on avait un calendrier qui était extrêmement serré.
Il a fallu 2 ans entre les premiers modelages de morceaux de paroi et la touche finale. 2 ans, c'est un tour de force quand on voit le résultat. 100% des dessins, 90% des gravures sont représentés. Le choix a été fait de contracter les parties ornées les plus intéressantes de la grotte Cosquer. Et c'est dans un module d'exploration, assis dans cette petite navette par groupe de 6, que se fait la visite commentée par Philippe Cobert.
La visite commence ici, devant ce grand hublot à travers lequel nous observons une ouverture au bas du tombant rocheux.
On glisse doucement de la partie appelée la plage, là où Henri Cosquer a ôté son détendeur pour la première fois, au panneau des chevaux, aux mains, en passant par les emblématiques pingouins.
Elle a des marqueurs qui lui sont propres, des animaux marins, elle a des signes particuliers, cette spécificité très forte d'arrachement des parois. Les préhistoriques ont touché, ont gratté, ont enlevé de la matière par endroits. C'est assez étonnant.
La grotte Cosquer est très complexe. Les 200 représentations animales se superposent parfois peinte, parfois gravée, de temps en temps lacérée, sans qu'on se l'explique vraiment. Sa géologie est d'une grande variété également. C'est ce que détaille Alain Dalis, plasticien et directeur d'Archéos, l'un des ateliers choisis pour les copies.
Ça a été aussi très compliqué parce qu'on avait beaucoup plus de calcite. La calcite, c'est ce qui forme les stalactites et les stalagmites. C'est une matière très particulière qui est translucide et qui, à Cosquer, est vraiment très colorée, qui joue énormément avec les œuvres. Donc ce sont des matières qui parfois sont lisses, parfois sont granuleuses et brillent, qui ruissellent. Donc il a fallu trouver aussi des recettes. Et c'est vraiment cette façon de recréer cette géologie qui va faire que le projet est crédible ou non.
Sans compter que les gestes des peintres préhistoriques sont sans faute, souligne Alain Dalis. Une fois encore, après Lascaux et Chauvet, cette réplique éblouit par la fidélité des reproductions, l'ambiance qui est créée. Ici, des bassins d'eau viennent rappeler qu'on est sur l'artefact de la seule grotte marine ornée découverte au monde.
Et donc, vous nous le confirmez, pas besoin de bouteilles de plongée ni de masque pour faire la visite à Marseille à partir de demain, Sophie.
Non.
Bruno Arfib, cette réplique donc ne montre pas toute la grotte. Donc, il y a l'essentiel, il y a toutes les œuvres, mais pas toute la grotte. Il y a des choix qui ont été faits. Pour quelle raison exactement ?
Je crois qu'on a bien entendu dans le reportage, c'est qu'il a fallu mettre la boîte dans la boîte. C'est-à-dire que quand une réplique est faite, il y a des zones qui peuvent pas être mises. Donc ça, c'est un choix qui est lié à la taille, à la dimension disponible. Parce que la vraie grotte, elle, est une grotte relativement étendue, dans laquelle il y a 2 salles, il y a des puits. Et il était difficile de faire rentrer tout ça dans un bâtiment existant et après à gérer avec le public qui se déplace dedans.
C'est 116 mètres de longueur, hein, c'est ça, et à peu près 2000 mètres carrés.
Oui, donc, et différents niveaux en fait, que les plongeurs peuvent aller d'un niveau à l'autre et nous non.
Ouais. Bruno Arfib, on a une question de Michel sur l'application France Inter qui demande quelle est la teneur de l'air justement dans la grotte et d'où vient-elle ?
Alors, la teneur de l'air, je suppose que c'est les gaz qu'on retrouve dans l'air. On retrouve un air qui est équivalent à celui de l'extérieur. Étant donné que l'air de l'extérieur arrive à rentrer dans la grotte en passant par la voie sous-marine. Et ça, c'est également une spécificité de cette grotte. C'est-à-dire qu'en dehors de ces peintures, de ces gravures, cette grotte a une quantité d'air à l'intérieur qui est légèrement plus importante que l'air qu'on trouve dans l'atmosphère. Mais par contre, la concentration en gaz reste la même. On a à peu près 20% d'oxygène et 80% d'azote.
Ouais. Alors, à peine découverte en 1985, la grotte a rapidement été considérée comme en danger. C'est justement lié à l'élévation du niveau de la mer. C'est ça le principal danger pour Koskher ?
Là, aujourd'hui, le principal danger, c'est l'élévation du niveau de la mer, auquel il faut associer tout de même tout ce qui va avec la mer. Donc avec la mer, ça peut être également, si on parle des dangers, hein, ça fait mal au cœur, mais on peut penser à toutes les pollutions qui sont à l'intérieur de la mer et qui se déplacent et qui vont pouvoir rentrer dans la grotte, parce que la partie sous-marine, elle, n'est pas étanche. Hein, d'ailleurs, oui. on passe par la partie sous-marine pour rentrer dans la grotte. Ça peut être également les mouvements au sein des massifs rocheux, où on peut avoir comme ça quelques effondrements ou quelques éléments qui peuvent se fracturer au cours du temps. Alors ça s'est vu au cours du temps géologique, c'est ce qui a créé la grotte. Une partie dans la grotte correspond à des zones effondrées. Mais ça peut encore arriver, fort heureusement c'est assez rare dans la grotte Koskher. Par contre la montée du niveau de la mer, elle est inéluctable, c'est-à-dire qu'elle a commencé il y a environ 20 000 ans en arrière. Ça, c'est les grands cycles climatiques, géologiques. Et puis là, elle continue, et puis elle est accélérée par le changement climatique lié à l'homme. Celui dont on parle tous les jours, mais que là, on peut voir en direct.
A-t-on une idée de l'échéance, selon le rapport du GIEC, entre 30 et 80 cm de montée de la mer d'ici 2050 est-ce qu'en fonction de ce que vous mesurez depuis 37 ans qu'on l'a découverte, ça se confirmerait? Elle pourrait être noyée à l'échéance humaine, j'ai envie de dire, ou dans des milliers d'années?
Alors, il faut distinguer la grotte et certaines parties ornées. C'est-à-dire que la grotte, dans sa partie aérienne, à certains endroits, elle fait quasiment 40 mètres de haut. Donc si on rajoute 50 cm ou un peu plus de montée du niveau de la mer, on va pas aller jusqu'en haut de la grotte. Par contre, dans la partie qui aujourd'hui est au ras des plans d'eau dans la grotte, là il y a une grande zone ornée, par exemple le panneau des chevaux. Le panneau des chevaux, il est souvent montré, alors on montre les pingouins, mais on montre aussi le panneau des chevaux, un ensemble magnifique où on voit trois chevaux extrêmement bien dessinés, avec des gravures, et ce panneau des chevaux est petit à petit mangé par le plan d'eau qui remonte à l'intérieur de la grotte.
Donc ça fait partie vraiment des fresques dont il faut s'occuper un petit peu en priorité, là ?
Oui, ça fait partie des fresques qui sont en péril immédiat. Et notre action, parce que dans l'étude d'une grotte ornée, on va avoir une équipe pluridisciplinaire qui va chacun arriver avec sa discipline, et puis on va coupler toutes ces disciplines pour faire de l'interdisciplinarité. Et là, par exemple, moi, mon action, c'est de mesurer les niveaux, savoir pendant combien de temps, chaque jour, chaque heure, voire chaque année, certaines parties de la grotte sont noyées, pour faire le lien avec l'évolution des parois, où là, les pariétalistes vont aller observer comment ont été faites les peintures, les gravures, et puis finalement, comment elles sont altérées, et ça, on le voit également avec des photos.
Mais alors, vous n'avez pas répondu à Sophie, juste sur l'échéance, la probabilité, justement, de retrouver la grotte complètement noyée, on peut estimer à quelle échéance?
Aujourd'hui, déjà, il y a une grande partie de la grotte qui est noyée. Donc, si dans 50 ans, comme le dit le GIEC, on a, par exemple, suivant les modèles, bien sûr, on peut avoir des valeurs différentes, mais prenons l'exemple de 50 cm de montée d'eau, et ben, dans 50 ans, on aura 50 cm de montée d'eau dans la grotte Koskher, plus ou moins les variations propres à la grotte, au sein de la grotte, hein, les plans d'eau ont une variation qui peut être quelquefois indépendante de la mer.
On comprend l'urgence.
On est dans l'urgence. Hein.
Bruno Arfib, cette réplique, donc, elle ouvre demain au public. C'est un moyen, évidemment, de montrer des œuvres qui composent cette grotte, mais aussi de sensibiliser le public au réchauffement climatique. On peut dire que finalement, il y a les deux aspects dans cette réplique proposée là demain.
Ah, je crois que c'est primordial. C'est aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens qu'on a pour pouvoir sensibiliser au changement climatique. Et là, on a la preuve devant nous de cette montée du niveau marin, de l'impact que ça peut avoir ici sur une œuvre ancestrale. On est avec certaines peintures qui ont plus de 32 000 ans. Et on a, sur les 10 dernières années, de 2010 à 2020, les signes d'une montée du niveau de l'eau dans la grotte et d'une dégradation de certaines peintures qui d'ailleurs sont mises en avant, enfin le panneau des chevaux est montré comme exemple au sein de l'exposition de la réplique.
Merci Bruno Arfib. En tout cas, donc ouverture demain de cette réplique à la Villa Méditerranée. Toutes les infos sont disponibles sur le site grotte-cosquer.com. Thomas Pesquet, est-ce que la préhistoire, c'est un sujet qui vous intéresse, vous ?
Ça m'intéresse, oui. Mais moi, j'ai écouté avec attention. Je suis très loin d'être un expert, mais en tout cas, je regarde ça avec admiration.
Bon, en tout cas, cet après-midi, vous avez rendez-vous avec pas mal d'Homo sapiens à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et on en parle dans un instant avec vous, Thomas Pesquet. I had to get this off my chest, had to be said. You're stuck in my head, you said that it's not black and white. Tonight, no, might be the last time. Wishing we could go further, but for now it's alright. Oh, I know the time is never right, but I'm right here. You and I've got an expiration date, but for now I've got no regrets while I've got you in my. When I'm feeling blue, I'm up all night, 'cause now my bed feels twice as big. Since you left me and left, you tore me to pieces, and it'll hurt for a while, but I'm still breathing. Expiration date, c'était Michel.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Les pieds sur terre à quelques pas du tapis rouge du Festival de Cannes, l'astronaute Thomas Pesquet est venu à la rencontre de 300 élèves cannois pour expliquer et faire vivre sa passion de l'espace, un domaine qu'il aime partager avec les futures générations.
Merci à toutes et à tous d'être là. Je ne sais pas s'il y avait cours aujourd'hui, si c'est juste une manière de... Non ? Oui, si, ça dépend.
Okay. Voilà, ça c'était le 20 mai dernier, après le tapis rouge et les enfants cannois, le public de Toulouse, Thomas Pesquet, puisque vous serez donc tout à l'heure à 16h30 à la Cité de l'Espace pour une série de questions-réponses avec des membres du CNES, de l'ESA, qui ont travaillé avec vous sur la mission Alpha. Quelle est la question à laquelle vous avez le plus répondu ? C'est la question que je me posais depuis votre retour, Thomas Pesquet, et celle évidemment que vous ne souhaitez plus entendre, plus jamais, jamais.
Non, il y en a beaucoup. Les gens me demandent sont très, de manière très sympa comment ça va, si j'ai bien repris, etc. J'ai l'impression qu'on s'inquiète pour ma santé. Ouais. C'est très sympa. Ou on me demande ce que je vais faire maintenant que je suis rentré sur Terre. C'est plutôt ces questions-là qui reviennent le plus souvent.
Bon, qu'est-ce qui intéresse le plus le public en général lorsque les gens justement vous rencontrent ? C'est vraiment l'aspect scientifique, l'œil que vous portez sur la Terre, votre métier d'astronaute, c'est quoi ?
C'est vraiment un mix des trois. L'aspect scientifique, on va pas se mentir, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les gens au premier degré, mais justement, moi, je me suis servi de d'autres choses peut-être un peu plus légères pour, bah, quelque part aussi faire passer, y attacher les messages scientifiques un peu plus sérieux, un peu plus lourds parfois. Mm-hmm. Donc oui, un mix entre vraiment ce point de vue. Les gens ont vraiment envie de cet effet miroir, de se voir eux-mêmes, de voir la Terre depuis l'orbite terrestre. Donc ça passe par mon regard, et c'est beaucoup de ça qu'on me parle.
Ouais. Alors, à mes côtés, Sophie Bécherel, avec laquelle vous avez beaucoup discuté l'année dernière, hein, depuis la Station Spatiale Internationale. D'ailleurs, le podcast est toujours en diffusion sur Radio France, sur franceinter.fr. Alors, apparemment, vous suscitez pas mal de vocations, Thomas Pesquet, hein, puisque l'Agence Spatiale Européenne recevrait un nombre record de candidatures pour les futurs astronautes. Les dossiers sont bouclés, là, maintenant, hein, c'est fini, hein.
Oui, les dossiers sont bouclés. On a même bien avancé dans la sélection. 21 000, un peu plus, ouais. 21 000, 22 000 candidats sur la ligne de départ, dont ces petits cocoricots, 8 000 Françaises, parce qu'il y a aussi beaucoup de filles, ça c'est très bien. Et tant mieux, ça veut dire qu'on est hyper représenté, la France, les pays francophones. Et ça c'est très bien, c'est-à-dire que depuis 10 ou 13 ans, que moi je parle beaucoup de ça avec d'autres, on a fait notre boulot, donc ça me fait plaisir.
Qu'est-ce qui attend les futurs astronautes? Parce que là, la mission, elle sera de taille, hein, pour les prochains quand même. Hein.
Oui, alors ben, la suite, c'est toujours l'exploitation de la Station Spatiale Internationale et le programme de recherche scientifique qui va avec. Mais là, on se prépare vraiment maintenant à aller plus loin, à retourner sur la Lune, mais de manière un peu plus durable, avec une présence un peu plus permanente, une base, on parle d'une base sur la surface de la Lune, on parle d'une station autour de la Lune, on fait même plus que d'en parler, vu qu'on y travaille et qu'on a même déjà du matériel qui est prêt à partir. Voilà, c'est ça le futur, ce seront ça les missions un peu plus ambitieuses, et après, à plus long terme, ce sera Mars, mais s'il est possible que j'ai pris ma retraite d'ici là.
Ouais. Par contre, la Lune, ça vous concerne directement, hein?
Oui, la Lune, enfin on l'espère, hein, évidemment dans le spatial, c'est des projets compliqués, c'est techniquement compliqué, il peut toujours se passer pas mal de choses. Moi j'ai toujours l'impression que c'est une série de miracles, et quand on va dans l'espace, on se dit mais tout ce qui aurait pu mal se passer, qui finalement se passe bien, grâce au travail de tout le monde, mais oui, si tout se passe bien, c'est horizon 2025-2030, hein, le retour vers la Lune, et là ben, ma génération qui a été recrutée en 2009, moi je suis encore le plus jeune, donc on a, je l'espère, voix au chapitre pour cette mission-là.
Quand est-ce qu'on sera d'ailleurs, si vous partez-vous, Thomas Pesquet, sur la Lune?
Je ne sais pas quand est-ce qu'on saura. La décision, elle se fait vraiment en plusieurs temps. Elle se fait d'abord, est-ce qu'on y va internationalement? Parce que c'est des programmes internationaux, hein, avec nos partenaires de la NASA, japonais, canadiens, etc. Donc, est-ce qu'on y va? Oui, on construit le matériel. Est-ce que tout ça se met en place? Ensuite, est-ce que l'Europe, représentée par l'Agence spatiale européenne, se fait partie de l'équation et apporte son écho de matériel, de logistique, d'expertise? Et donc, si la réponse à ces deux questions-là, c'est oui, ben la troisième question, c'est bon, maintenant, qui y va, quelle nationalité, un Français, un Allemand, un Italien, un Danois, un Anglais, qui va se retrouver dans cette mission-là? Donc ça, c'est la troisième question, on va dire.
Thomas Pesquet, vous savez que dans cette émission La Terre au Carré, on parle tous les jours de réchauffement climatique, d'effondrement de la biodiversité, de menaces qui pèsent sur les principales ressources, avec des projections assez sombres, hein, pour les décennies à venir, si évidemment l'humanité ne remet pas en cause drastiquement ses modes de vie. Vous avez raconté depuis l'ISS avoir été le témoin des ouragans, des feux de forêt de très grande ampleur. Est-ce que ces événements extrêmes vous ont fait prendre conscience des problèmes, ou vous en aviez déjà conscience avant? Est-ce que ça modifiait, vous, certaines choses personnellement ou pas, dans votre engagement?
Oui, alors j'en avais conscience, c'est vraiment ma première mission, je pense que c'est de là que date un peu cette réalisation qui est un peu bête, mais c'est vraiment de mettre ces phénomènes globaux, planétaires, un peu à l'échelle de ce qu'on peut percevoir en tant que simple être humain, et ça c'est vraiment la chose différente que de les conceptualiser dans sa tête de manière un peu plus intellectuelle, vraiment là de les voir, de les ressentir, c'est différent. Deuxième mission, malheureusement j'ai pas vu une amélioration, surtout en fait dans les phénomènes violents, en fait les ouragans, les inondations, les feux. Après j'essaie aussi de dire que une vision individuelle, moi je suis attaché au discours scientifique, donc une vision individuelle, elle peut toujours être biaisée, on peut l'avoir eu dans des conditions qui sont spécifiques, donc ce qu'il faut regarder évidemment, c'est la vision très très scientifique, répétitive, tous les jours dans les mêmes conditions des satellites, hein, qui sont le fer de lance de l'Agence spatiale européenne, du CNES et d'autres. Et donc là, bah, évidemment, si on cumule les deux, moi ma vision humaine, mon impression qui est nettement confirmée par les données scientifiques, donc là on n'a pas d'équivoque. Ce que ça a changé, c'est vraiment une recherche d'action en fait. Au début, il y a la partie prise en compte, advocacy comme on dit en bon français américain. Et puis ensuite, on se dit bon, maintenant il faut vraiment faire quelque chose.
Mais alors, ce serait quoi vos actions à vous personnellement? Est-ce qu'il y aurait une sorte de militantisme plus visible, un engagement voire politique? Est-ce que ce serait imaginable?
Non, alors c'est pas imaginable à court terme, on va dire, parce que c'est pas compatible avec mon métier, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas, mais chacun a ses responsabilités. Moi, mon rôle, il est très scientifique, très technique. Je l'ai déjà assez largement dépassé, en fait, sans vraiment le rechercher en communiquant et en essayant de partager cette mission-là avec les effets que ça a eu. Donc, j'essaie d'entretenir du mieux que je peux, parce que je pense que c'est des messages positifs. Donc, moi, je m'attache à passer ces messages-là, surtout auprès des jeunes, en fait, qui grandissent avec ça. C'est important, c'est eux qui vont avoir à gérer les conséquences de la situation, malheureusement. Après, de prendre, on m'a proposé, pas plutôt dans le cadre d'une fondation, pas un rôle politique, mais malheureusement avec un travail temps plein côté agence spatiale européenne, ça c'est pas compatible.
Mais vous avez une voix qui pèse quand même aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez la faire entendre encore plus pour qu'elle résonne par rapport à toutes ces problématiques qui concernent la planète aujourd'hui?
Ben oui, non, mais j'essaie de faire de mon mieux, mais encore une fois, pour passer au niveau supérieur, il faudrait que j'en fasse un métier, et ça, c'est pas à l'ordre du jour,
ouais.
Malheureusement.
Ouais. Yves, sur l'application France Inter, est-ce que dans cette crise à vie, à mort de la crise climatique, est-ce que tout cet argent que coûtent les voyages dans l'espace ne devrait pas être utilisé à autre chose que retourner sur la Lune? Ça, c'est des questions qu'on a très souvent, hein, à chaque fois qu'on fait un sujet sur l'espace. Qu'est-ce que vous répondez à Yvan?
Eh bien, je réponds que c'est effectivement, j'ai très souvent cette question-là, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Au sein de l'Agence spatiale européenne, le plus gros budget de très très loin, hein, c'est l'observation de la Terre. Hein, c'est justement les satellites qui nous permettent d'ausculter la planète, qui nous permettent de conclure au réchauffement climatique, qui approvisionnent les scientifiques avec les données dont ils ont besoin. Sans satellites, on serait même pas au courant qu'aujourd'hui il y a un réchauffement il y a un changement climatique, on va dire, de la planète. Et donc ça, c'est notre priorité, hein, nous à l'Agence spatiale. C'est vraiment ça qu'on fait le plus, le mieux. Au-delà de ça, moi je pense qu'il ne faut pas non plus s'interdire d'avoir une recherche un peu plus fondamentale. Et l'exploration spatiale, qu'elle soit humaine ou robotique, c'est ça. On va chercher à répondre à des questions un peu fondamentales. On va préparer le futur. On va voir l'histoire de l'eau liquide sur Mars, de l'atmosphère que Mars a perdue. C'est vraiment des leçons qui peuvent nous servir pour la Terre. On dédie à peu près 10% de notre budget à ça. Ben, je pense que c'est pas des sommes qui, au final, même si elles peuvent paraître élevées, au niveau de l'Europe, c'est quand même 1,50€, 2€ par citoyen européen et par an. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de préparer l'avenir, tout en évidemment mettant l'urgence et la priorité sur le présent.
Est-ce qu'il existe, malgré tout, des voix un peu dissonantes et au sein de l'Agence spatiale européenne, un courant qui dirait peut-être que la question doit être posée. On coupe complètement la branche des vols habités au profit, comme vous le disiez, des satellites d'observation de la Terre ou de missions scientifiques. Est-ce que ce débat émerge dans votre milieu?
Non, alors du moins, moi je l'ai pas entendu, donc il est pas audible, il est pas arrivé jusqu'à moi. Je pense encore une fois que on aime bien les situations noires et blanches. En fait, on a envie de dire voilà, c'est 100% ça, 100% pas ça. Moi, je trouve que c'est toujours un peu un piège. Donc, sans vouloir faire des réponses de Normand, je pense qu'encore une fois, il faut avoir des priorités, ça c'est important. Mais faire du tout ou rien, malheureusement, ça marche pas. Donc, je pense que les priorités, elles sont claires, elles sont claires pour tout le monde. Après, préparer la suite, préparer le futur, chercher un peu l'origine de la vie dans l'espace, qu'on le fasse encore une fois en envoyant des sondes très loin de la planète ou en essayant d'envoyer des hommes et des femmes sur Mars un jour, ça va répondre à des questions qui sont importantes et ça va nous amener des connaissances qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment une question de curseur, moi je pense. C'est pas une question de noir ou blanc, c'est vraiment une question d'où mettre le curseur.
Thomas Pesquet, on parle beaucoup de la pollution spatiale aussi aujourd'hui, c'est une réalité. Quelle est votre position sur les grappes de satellites d'Elon Musk par exemple, qui énervent beaucoup les astronomes du monde entier avec cette pollution lumineuse et puis aussi la pollution engendrée par les débris? Est-ce qu'il y a une vraie dérive aujourd'hui à privatiser l'espace comme ça?
Une vraie dérive, je ne sais pas. Disons qu'il faut un encadrement de ces activités-là. C'est la position qu'on a, nous, à l'Agence spatiale européenne. On ne veut pas que l'espace se transforme en un Far West où chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est le cas. Il y a quand même des traités internationaux. Évidemment, il faudrait aller un petit peu plus loin. Nous, quand je dis nous, c'est plutôt les agences, les intervenants étatiques, institutionnels. On se donne des règles qu'on veut vertueuses, hein, pour en fin de vie récupérer nos satellites ou du moins les désorbiter, les faire rentrer dans l'atmosphère, des choses comme ça. On contrôle évidemment les trajectoires de manière à ce qu'on ne crée pas de danger pour les autres et les autres font la même chose. Donc ça se passe plutôt en bonne entente la plupart du temps. La pollution lumineuse, ça c'est une autre affaire évidemment. C'est vrai que si on voit des traces dès qu'on lève les yeux au ciel, c'est un peu plus compliqué. Mais ça concerne plutôt les astronomes, c'est plutôt les gens qui regardent avec des instruments professionnels. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui va remarquer à mon avis cette pollution lumineuse. On essaie de militer. En fait, on peut pas. C'est des sujets mondiaux. En fait, on peut pas réglementer pour les autres. Nous, on se contente de réglementer pour nous et de porter ce débat dans les forums entre agences ou là où les questions sont traitées et où on espère avoir un peu de portée.
Et le même Elon Musk qui décrit Mars comme étant un lieu de colonisation pour l'humanité, ou encore les astéroïdes comme étant là aussi des objets potentiellement pour l'exploitation de ressources minières. Quel regard vous portez, vous, sur ce type de vocabulaire, sur cette façon d'envisager le lien à l'espace ?
Nous, c'est encore une fois, quand je dis nous, encore une fois, l'Agence spatiale européenne ou d'autres, le CNES, la vision plus européenne, on va dire, de l'exploration spatiale, elle n'est pas celle d'une colonisation. Je pense qu'il faut se méfier évidemment des termes qu'on emploie. Je pense qu'il ne faut pas non plus véhiculer de mauvaises idées. Nous, quand on parle de Mars, c'est des missions scientifiques qui concernent un nombre de personnes évidemment restreint vis-à-vis du prix que ça va coûter, vis-à-vis des risques qui vont être associés, des défis que ça représente techniques et technologiques. Donc une colonisation de Mars, évidemment, c'est vraiment pas quelque chose qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Ensuite, j'ai pas de boule de cristal, évidemment, dans 100 ans, 200 ans, je sais pas. Mais c'est de ça qu'on parle, en fait. On se donne des objectifs qui sont raisonnables et on avance pas par pas, et à mon avis, c'est la seule manière de faire.
Quel est votre agenda, là, pour les prochains mois, Thomas Pesquet, finalement? Parce que là, vous êtes à Toulouse, donc cet après-midi. Les mois qui viennent, c'est quoi pour vous?
Les mois qui viennent, j'essaie de prendre un peu de vacances, quelque chose qui m'est pas arrivé depuis un moment, mais l'été dernier, je l'ai passé dans la Station Spatiale Internationale, donc peut-être cet été, je vais m'accorder une semaine ou deux. Et ensuite, j'ai déjà commencé à travailler dans le recrutement de la nouvelle promotion d'astronautes, on en parlait. Ça va continuer jusqu'à à peu près le mois de novembre. Et ensuite, très rapidement, il faut d'abord s'occuper des missions de ceux qui continuent à aller dans l'espace. J'ai une collègue italienne en ce moment, j'avais un collègue allemand, donc ça demande beaucoup de travail chez nous au sol, au sein de l'agence spatiale, le rôle technique, scientifique, technologique. Et puis après ça, on verra, soit tout de suite les missions vers la Lune vont vraiment se présenter, il va falloir s'en occuper, ou alors, encore une fois, il y aura beaucoup de choses à faire au sein de l'agence spatiale.
Au niveau du recrutement, il y a combien d'Européens, a priori, qui seront engagés là?
À la fin de ce processus, on n'a pas encore un chiffre exact, ça dépend de pas mal de choses, mais on pense, je m'avance pas trop, que si je dis entre 2 et 6.
Ouais, et au moins la moitié de filles, ça c'est une quasi certitude, au moins.
Une certitude, je sais pas. Je pense pas qu'on se soit donné une exigence de ce niveau-là. Enfin, du moins, je suis pas dans les petits papiers de la sélection, mais il y a une vraie volonté que ça soit plus inclusif, que les filles soient représentées. Et en tout cas, c'est le cas. Moi, j'ai vu 38% de candidates au niveau de la deuxième étape. Je pense non seulement on avait beaucoup de filles au début, mais on en avait 15% en 2009. Ouais. Donc 38%, et non seulement il y en avait plus au début, mais en plus elles ont plutôt bien passé les premières épreuves. Donc je crois qu'il y en a encore plus à la fin, on verra. Mais on espère, on aimerait bien. Les Américains l'ont fait une fois, une promotion avec 4 filles, 4 garçons. Nous, on ne l'a jamais fait, donc je pense que c'est l'occasion.
Thomas Pesquet, alors, ce sera ma dernière question. C'est même pas une question d'ailleurs. Lors de la dernière mission, donc Alpha, vous aviez emporté des blobs avec vous dans la Station Spatiale Internationale. Sachez qu'en ce moment même est en train d'être battu le record du monde du blob le plus long. Ça se passe au lycée Blaise Pascal de Châteauroux. Et on les salue parce qu'ils y sont là en ce moment. Et le public peut même aller les rencontrer au lycée Blaise Pascal pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. L'huissier validera ce record à 17h30 avec Audrey Dussoutour qui avait également participé à l'envoi du blob dans l'espace. Merci Thomas Pesquet. Donc vous serez tout à l'heure à 16h30 à la Cité de l'Espace à Toulouse pour une rencontre avec le public. Bonne journée à vous et à bientôt. Sophie Bécherel, merci beaucoup.
Bon week-end.